Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
C'est pour ça que moi je me suis mise à vulgariser un peu le droit du travail, parce que je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas leurs droits dans le monde du travail, tant côté employeur que côté salarié. Et par exemple la laïcité, je suis désolée mais une personne sur deux ne connaît pas la signification de la laïcité.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Lubna.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Très très bien, merci.
Écoute, je te remercie d'abord pour participer à cette interview. Ça sera des sujets, je pense, qui vont être hyper intéressants pour la plupart des auditeurs. J'espère en tout cas. Et j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi le long de cette interview, Inch'Allah.
Merci beaucoup, ravi pour l'invitation. Et oui, j'espère que ça va servir à beaucoup, en tout cas.
Alors, Lubna, pour commencer, je vais te proposer de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement.
Alors, je suis juriste de formation. J'ai fait des études de droit. J'ai été jusqu'à la préparation du barreau. Et en cours de route, j'ai décidé de ne plus me diriger vers la profession d'avocat. J'avais préféré prendre un CDI à ce moment-là, j'ai privilégié le confort, un CDI en tant que juriste. Et donc, j'ai eu une expérience de juriste en mobilité internationale et en droit du travail. Et puis, au fil des années, je me suis rendu compte que faire du droit du travail, en fait, c'est vraiment une éthique aussi parce que parfois, on peut être amené à sous les ordres ou les directives des entreprises. Malheureusement, quand on travaille avec des directions, avec des CEO, on peut être amené à malheureusement avoir des décisions qui sont parfois éthiquement incorrectes, en tout cas selon moi, ma perception. Donc, par exemple, si on me demandait de mettre fin à la période d'essai de quelqu'un alors qu'il n'y a absolument aucune raison, j'allais pas me sentir bien. Et donc, à partir de là, un questionnement s'est fait et je me suis mise à mon compte parce que je voulais avoir le choix. Je voulais avoir le choix, dans ma pratique, je voulais avoir le choix de choisir mes clients, c'est-à-dire vraiment prendre des... travailler avec des entreprises qui sont éthiques. Alors, je ne pourrais pas connaître toutes leurs activités, avoir en tout cas une certitude à 100% que c'est éthique, mais en tout cas, voilà, avoir des entreprises à mes côtés qui ont un impact aussi positif et qui ne font pas n'importe quoi en termes de droits des personnes. Je travaille actuellement donc à mon compte. Je gère pour des entreprises qui font appel à moi leur personnel. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une problématique RH ou droit du travail et n'ont pas le personnel, en tout cas à ce moment-là, dans leurs effectifs. Et ils font appel à mes services pour que je puisse les aider à gérer leur personnel, à mettre en place des stratégies RH, recrutement, etc., mais aussi à mettre en place toute une stratégie juridique de conformité et de protection, en tout cas employeur comme salarié. J'ai aussi des salariés qui font appel à moi parce qu'ils ont besoin d'une prise en main de leur carrière. Et donc aujourd'hui, j'ai une double casquette RH et juriste. Je ne délivre pas de conseils juridiques parce que je ne suis pas avocate et donc je ne suis pas habilitée pour. Mais faire de la ressource humaine, c'est clairement, ça englobe beaucoup d'aspects, l'éthique, ça englobe l'humain évidemment avant tout et puis le droit aussi qu'on applique.
Très bien. Bah, écoute, on va un peu dépister tout ça. Par rapport au droit, tu as commencé par faire les études de droit. C'était une vocation, c'est quelque chose qui t'intéressait. C'était quoi tes motivations faire du droit?
Alors, c'est vrai que c'est depuis l'enfance, en fait, j'ai vécu pas mal d'injustices quand j'étais petite. Et alors, quand on est petit, on a une différence... une différente perception de la justice. Moi, je me voyais comme la petite avocate qui porte la voix des opprimés, qui porte la voix de ceux qui subissent une injustice et qui veut toujours œuvrer pour le bien. Bon, après, quand on est musulman, en tout cas, c'est le but aussi qu'on a dans la vie, c'est d'œuvrer pour le bien à notre échelle. Et donc ça a toujours été un rêve depuis petite. Et puis au final, en grandissant, malheureusement, je me suis heurtée aussi à une réalité du terrain qui est que malheureusement, c'est un monde ingrat. Qu'on le veuille ou non, c'est un monde ingrat parce que déjà, C'est très compliqué de commencer quand on est avocat dès le départ parce que bon, pour faire un chiffre d'affaires, c'est difficile. On commence collaborateur dans un cabinet, on travaille pour le cabinet et il n'y a pas vraiment de place pour la vie sociale, la vie familiale. Et moi, c'est quelque chose qui importait beaucoup pour moi. Deuxième chose, moi, j'ai porté le voile il y a quelques années. Au cours, en tout cas, de mon expérience professionnelle. Et je me suis rendu compte que à ce moment-là, en tout cas, j'ai vu la difficulté que peuvent ressentir mes sœurs qui portent le voile face au monde du travail. Et aujourd'hui, malheureusement, il est impossible, voire, bon, en tout cas rare, de pouvoir plaider quand on est avocat avec un foulard sur la tête. C'est très difficile à comprendre parce que l'avocat est indépendant comme le médecin, comme voilà. Mais malheureusement, les ordres des avocats et différentes institutions se sont immiscés dans cette liberté religieuse pour dire que l'avocat ne devait pas porter de signes religieux. Et bien pourtant, il est indépendant et qu'il n'a pas de hiérarchie,
On
l'avocat.
parle bien, on
Et
parle de l'avocat qui veut plaider.
c'est ça, on parle bien de l'avocat qui veut plaider parce que quand je te disais que depuis petite, c'était un rêve de pouvoir porter la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler, c'est parce que, en tout cas, j'ai pu, au fil des années, performer dans une aisance orale qui fait que je trouvais les mots justes pour pouvoir défendre certaines causes. Et malheureusement, c'était frustrant de se dire que, OK, je peux être avocate, il n'y a pas de problème aujourd'hui, ce n'est pas un souci quand on porte un foulard et donc on travaille dans son propre cabinet, à condition de ne pas aller au tribunal. Et ça, c'est quelque chose qui est frustrant pour quelqu'un qui aime parler pour les autres. Mais en même temps, je me suis dit, c'est peut-être un bien, c'est peut-être un khair, parce que finalement, on peut toujours œuvrer dans le bien à notre échelle, peu importe le métier, qu'on soit avocat ou pas.
Non, tu as tout à fait raison. Et petite anecdote, ma femme aussi est avocate de formation. Elle a dû justement aussi renoncer à ce même rêve
Ouais.
parce que justement, elle pouvait pas plaider avec le voile. Donc c'est vrai que c'est un gros
Malheureusement.
problème pour les femmes musulmanes qui portent le voile. C'est très difficile de pratiquer, d'être avocat, de plaider. Enfin, c'est même impossible. On ne peut que rester dans un cabinet d'avocat ou travailler en droit des affaires ou dans d'autres
Exactement.
spécialités. Ouais.
Exactement. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a une affaire qui est en cours. Il y a l'affaire d'une jeune avocate qui avait été
Ouais.
refusée de plaider parce qu'elle portait un voile. Et donc, évidemment, la justice française jusqu'à la Cour de cassation, c'est-à-dire la dernière des cours dans l'ordre juridique français, a refusé. Maintenant, elle est partie au tribunal, en tout cas européen, donc à la Cour de justice de l'Union européenne, et elle va être défendue par une avocate qui était l'avocate de la reine Élisabeth et qui, elle, porte le voile. Donc, vous voyez un peu la différence entre un pays qui est juste à côté de chez nous, l'Angleterre, et la France, où même l'avocate de la reine porte un voile et ils n'ont jamais vu de problème à ce qu'elle soit, en tout cas, l'experte à côté d'elle. Et donc, c'est cette avocate qui va la défendre auprès des institutions européennes pour pouvoir obtenir, en tout cas, une décision favorable, je le souhaite, parce que clairement, je trouve que ce n'est pas normal et c'est injuste.
Ah, j'avais entendu parler de cette affaire, mais je savais pas que ça m'était arrivé là. Donc, Hanoula, on espère que ça va arriver au bout et que voilà, ça pourrait créer un précédent pour que toutes les sœurs puissent pratiquer, Inch'Allah. On espère.
Exactement, Inch'Allah.
Alors, Lubna, c'était clairement une question de pouvoir porter le voile pour pratiquer et une question aussi d'équilibre vie de travail, et famille, c'est ça? Si j'ai bien compris.
Absolument, absolument, c'est un package en fait. Je pourrais pas dire que c'est juste parce que je voulais porter le voile de manière apaisée ou parce que je voulais avoir une vie de famille. C'est vraiment un tout. Je veux dire, le tout va ensemble en fait. On peut pas dissocier. Ouais.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, je pense que c'est très commun, hein, qui ont ce sentiment de justice ou qui veulent, même pour le prestige parfois, devenir avocat, mais ils ne savent pas forcément les implications qu'il y a derrière en termes d'équilibre de vie sociale et travail. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps dans notre vie, dans une vie, le travail d'avocat.
C'est vrai. Non, mais c'est vraiment, je veux dire, mon entourage, ce sont des avocats et des avocates. Je veux dire, on a grandi ensemble, on a fait nos études ensemble et je le vois aujourd'hui. Alors, bon, après, c'est une question de destin aussi quand on est croyant, évidemment. Chacun a une destinée particulière, mais je veux dire, on est maître aussi de sa vie et chacun fait ses choix. Et quand je vois autour de moi que j'ai du mal à voir certains de mes amis, on se voit une fois tous les 6 mois, ou que je reçois des messages WhatsApp parce qu'ils sont au cabinet encore à 23 h, voilà, pour moi, c'est impensable.
Ouais. Donc, quelque chose à bien réfléchir avant de se lancer. Après, il y a toujours possibilité de se mettre à son compte, mais voilà, c'est pas si facile que ça, hein, si j'ai bien compris.
En fait, évidemment, ce n'est pas facile, mais si on part du principe que la subsistance vient d'en haut, évidemment, tout est facilité quand on travaille. Mais je veux dire, il faut pas avoir... Quand tu parlais de prestige, c'est très dangereux parce que c'est plutôt de l'ego, du coup, parce qu'on veut être important, parce qu'on veut exercer un métier où on nous voit, etc. C'est important, la visibilité, quand on est musulman, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis visible sur tous les réseaux et que j'interviens. Quand je suis invitée aux conférences, j'interviens comme je suis. Mais le prestige est dangereux parce qu'il peut nous mener à oublier notre but dans la vie. C'est-à-dire que pour le prestige, on va exercer un métier, on va accepter certaines décisions qui ne sont pas forcément en adéquation avec soi-même et donc se retrouver dans un engrenage qui ne se termine jamais.
Oui. Donc, comment est-ce que tu as organisé cette transition ?
Elle a été difficile parce que c'était un choix. J'avais des très très bonnes notes à la préparation du barreau et il manquait juste à le passer. Et je pense que c'est le destin parce qu'en fait, à la veille où j'allais passer les examens pour rentrer dans l'école, eh bien, j'avais reçu une proposition de CDI. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je choisis encore la précarité ? C'est parce que quand on continue à étudier pour devenir avocat, on est encore précaire. Hein. C'est-à-dire qu'on va devenir élève avocat, stagiaire, et parfois, on n'est pas très bien payé. Donc,
ouais.
Ou alors, est-ce que je m'installe enfin ?
En tant que juriste. Hein.
Voilà, exactement. Je m'installe enfin en tant que juriste et j'ai un CDI. Et donc, j'ai choisi le confort. Et je ne le regrette pas du tout, le CDI, parce qu'en fait, ça m'a permis de vraiment comprendre le monde de l'entreprise de l'intérieur. Quand on est avocat, on défend, ou on représente, ou on conseille. Donc, on n'est pas dans l'entreprise. Parfois, on est déconnecté de la réalité de l'entreprise, quand bien même on aurait des clients qui nous racontent ce qui se passe dans leur boîte. Mais quand on est juriste, on est confronté à toutes les problématiques d'une entreprise. Et je trouve que c'est super intéressant parce que quand on sait ce qui se passe à l'intérieur, on peut mieux conseiller de l'extérieur. Donc, en fait, la transition a été facile sur ce point-là. Mais je dirais que j'ai eu deux transitions parce que je ne portais pas le voile à ce moment-là. Et donc, je n'étais pas identifiée tout de suite comme musulmane quand je postulais. Et à vrai dire, je n'ai jamais eu de problème quand je postulais. Quand j'étais candidate en recherche d'emploi, je n'ai jamais eu de soucis. Je veux dire, je trouvais facilement du travail. J'ai toujours eu, en tout cas, un poste plutôt bien et je n'avais pas de soucis. Mais la transition, c'était quand j'ai décidé de porter ce signe religieux et je me suis rendu compte que c'est difficile, ma foi. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est un autre monde. C'est-à-dire que moi qui avais l'habitude d'être jugée sur mon expertise, je commençais à être jugée sur mon apparence. Et ça commençait à me poser problème. Ça commençait à me poser problème parce que même si j'assumais parfaitement parce que j'allais aux entretiens comme ça, c'est-à-dire que je suis comme ça, vous m'acceptez. Il y a eu des regards choquants, il y a eu des regards, voilà. Mais j'ai quand même trouvé du travail. Je veux dire, je dirais pas que j'ai galéré au départ. J'ai quand même eu du travail, mais j'ai subi en interne après des agissements qui, je pense sincèrement, ont été, en tout cas, ils m'ont été infligés parce que j'avais ce signe religieux. Et donc, j'ai vécu un harcèlement très difficile, un retour de congé maternité très compliqué. Et voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que quand on est finalement racisé, eh bien, la transition, elle est très difficile. Très très difficile quand on est racisé. Je dis bien racisé parce que en fait, finalement, quand on est un homme et que on a un nom à consonance étrangère ou quand on a une peau un peu plus foncée que ce qu'il y a dans l'entreprise, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, c'est du bullshit, hein, la diversité, tout ça, hein, diversité, inclusion. C'est si tu m'invites au bal, mais tu m'invites pas à danser avec toi, c'est pas possible en fait. Donc, si tu affiches diversité, inclusion, et qu'au final, tu ne m'inclus pas dans l'entreprise, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, la transition, pour moi, la plus difficile, c'est celle-ci. C'est-à-dire assumer sa spiritualité dans un monde du travail qui est de plus en plus rigide et qui malheureusement, est influencé par les médias.
D'accord. Et donc, comment est-ce que tu as navigué à travers... comment est-ce que tu as pu passer à travers cette épreuve ?
Comment je suis passée à travers cette épreuve ? Pardon. En assumant, j'avais l'infime conviction que tout ce qui arrive est, est aux mains d'Allah. Et donc, en fait, j'ai assumé. Et donc, à un moment donné, après toute cette période très difficile, très complexe de harcèlement, j'ai décidé de changer d'entreprise. Et donc,
Alors,
j'ai
c'est combien de
changé
temps?
d'entreprise. Je suis restée un an et demi dans cette entreprise seulement, mais un an et demi qui ont été un vrai calvaire.
Ouais.
Un an et demi qui ont été un vrai calvaire, c'est-à-dire que voilà, ça s'est soldé par un contentieux, hein, un procès au prud'homme, etc. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur les prud'hommes parce que c'était assez complexe, parce que je porte donc le voile et le conseil de prud'homme. Ça, je le dis pour tous ceux qui veulent un jour aller au prud'homme. C'est un conseil, mais après, chacun fait ce qu'il veut. N'y allez pas aux audiences. Si vous portez un voile, n'y allez pas. Je sais que c'est pas des conseils que je donne d'habitude, mais en tout cas, moi, de ma propre expérience, ce que j'ai vécu a été très violent. C'est-à-dire que, au prud'homme, par exemple, quand vous avez un problème avec un employeur, donc voilà, ça va commencer au niveau prud'homal d'abord, on va aller au prud'homme. Et la procédure au prud'homme, c'est une procédure qui est orale. C'est-à-dire que on va avoir en face de nous des conseillers. Ce ne sont pas des magistrats qui ont prêté serment, ce sont ce qu'on appelle des juges non professionnels. En fait, il va y avoir deux juges. Deux conseillers qui représentent l'employeur et deux conseillers qui représentent le salarié. Donc déjà, il n'y a pas d'impartialité, je trouve que c'est très difficile à avoir. Et puis, il va y avoir un président d'audience. Le président d'audience, ben, une fois sur deux, il est pro-employeur. Et donc, en fait, je me suis heurtée à une violence au niveau du regard. C'était très difficile parce que je suis la victime et j'en suis convaincue, et toutes les pièces disent que je suis une victime de discrimination par rapport à la grossesse, par rapport à beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir été à l'audience en portant un voile, l'avocate adversaire en a profité pour me pointer du doigt. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ils ont retenu moi, une femme qui porte le voile. Et donc, ça a été violent parce que c'était des regards méchants, c'était des remarques racistes, clairement. Et en fait, même moi, mon avocate, qui est une amie, mon avocate était choquée. Et toute la salle était choquée. C'est-à-dire que parfois, on nous dit, oui, il faut affronter. Moi, je conseille aujourd'hui de ne pas y aller si vous avez un contentieux, n'y allez pas au prud'homme. Après, quand on va en appel, c'est différent. À la cour d'appel, ce sont des magistrats professionnels qui ont prêté serment, qui vont statuer uniquement sur le droit. On ne va pas laisser place au biais cognitif. On ne va pas laisser place à l'oralité. Je veux dire, là, c'était vraiment des biais, mais violents. Et donc, en fait, et je me suis rendu compte à ce moment-là que, purée, porter un voile, c'est être une sorcière, finalement, aux yeux des autres, en fait. Et c'est très dur parce que. Après, ça remet en cause beaucoup de choses. Je me suis dit, mais moi, j'ai quitté l'entreprise. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est un questionnement. On se retrouve seul face à soi-même et à ses choix. Parce que quand bien même on aurait tout le soutien du monde autour de nous, on est seul. Parce que on est seul à porter ce signe et on est seul à subir ce qui se passe. Et donc, en fait, à ce moment-là, eh bien, j'ai dépassé toutes ces audiences qui étaient très difficiles. Et puis, je me suis rendu compte que bah, il fallait que ça change. Et j'avais une rage au fond de moi. Je me suis dit, il faut que ça change. Et comment ça doit changer? Eh ben, en me rendant visible. Me rendre visible, c'est-à-dire que, en fait, je vais assumer qui je suis. Et donc, sur LinkedIn, j'avais commencé à poster, j'ai commencé à parler et j'assumais totalement ce que je disais.
C'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs, à travers tes posts
Voilà.
sur LinkedIn.
Ah ben, super. En fait, j'ai commencé comme ça sur LinkedIn à m'exprimer. Et c'est là où on voit que la parole est très importante. Prendre la parole, c'est prendre sa place dans ce monde. Un peu injuste quand même. Et donc, en fait, tout le monde a sa place. Mais tout le monde a sa place à condition de prendre la parole. Et de prendre la parole, une parole ben, soit experte, soit une parole juste, mais pas en disant n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand on porte un signe, eh bien, en fait, on est pointé du doigt facilement. Donc, si on s'exprime mal, malheureusement, eh bien, on va plutôt avoir l'étiquette de la personne. Voilà, ah, vous connaissez elle, voilà, elle porte le voile, elle parle mal, elle raconte n'importe quoi sur les posts LinkedIn. Voilà. Et en fait, c'est très difficile parce que ça, c'est humain. Malgré tout, on va nous distinguer par notre signe qui nous distingue, en fait. Donc, c'est humain. Et prendre la parole, ça a été quelque chose de très important pour moi et libérateur parce que je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas pareil. Parce qu'après avoir vécu une expérience traumatisante en entreprise, je me suis rendu compte que. En fait, non, il y a des gens qui sont là que pour l'expertise. Il y a des gens qui sont là que pour ce qu'on raconte et non pas pour ce qu'on est. Et ça, LinkedIn, c'est génial pour ça. Parce qu'en fait, tout le monde s'exprime. Alors, évidemment, il y a des avis un peu complexes, mais tout le monde s'exprime. Et en fait, peu importe qui on est, peu importe. Et j'ai jamais eu de problème sur LinkedIn. Évidemment, j'ai eu une fois une nana qui avait répondu dans un commentaire qui avait dit « Vous parlez de liberté alors que vous portez le voile. » Bon, voilà, il a suffi de la remettre à sa place facilement. Et c'est un manque de connaissances aussi de la part de beaucoup. C'est pour ça que moi, je me suis mise à vulgariser un peu le droit du travail parce que je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas leurs droits dans le monde du travail, tant côté employeur que côté salarié. Et par exemple, la laïcité, je suis désolée, mais une personne sur deux ne connaît pas la signification de la laïcité. Et c'est très important dans le monde de l'entreprise. Quand j'ai des personnes en recherche d'emploi qui me disent « Oui, j'ai été refusée parce que je porte un foulard. » Donc, ok, très bien. Est-ce que c'était du service public ? Non. Est-ce que c'était une entreprise qui exerce une mission de service public ? Non. Mais en fait, c'est là où la discrimination facile commence. C'est qu'on devient discriminant de manière très, très aisée parce qu'on ne connaît pas la loi. Donc, quand on est employeur, on pense que, oh là là, il faut, moi, je veux pas, je veux de la neutralité dans ma boîte. Ouais, mais quand moi, j'ai un employeur qui me dit ça, je dis, mais alors, franchement, c'est pas possible. Secteur privé, il n'y a pas de but légitime derrière. Enfin, je vois pas pourquoi il faudrait que les salariés soient neutres, en fait.
Ouais.
Et donc, le cheminement a fait que, voilà, aujourd'hui, je m'en sers pour rendre visible toutes ces femmes qui ont été invisibilisées injustement à travers ça. Alors évidemment, c'est pas facile, mais il faut, je veux dire, il faut. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup d'avis autour de moi qui me disaient « Loubna, tu devrais pas être aussi visible ». Par exemple, récemment, il y a 2 semaines, la semaine dernière, je suis partie à Nantes parce que j'avais été invitée à un festival pour parler de harcèlement au travail. Et j'étais la seule qui portait le voile parmi des milliers de personnes. Et c'est vrai que c'est assez gênant au départ parce que les regards sont sur nous. Je veux dire, voilà, c'est vrai que quand on a un signe distinctif comme ça, on nous regarde. Et puis au final, je suis montée sur scène et j'ai parlé. Et puis je me suis dit, mais tant pis en fait. En fait, je suis là pour parler harcèlement. C'est bon, je ne suis pas là pour parler voile. Et en fait, il faut se détacher de ça. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ce qu'on est. Mais en fait, je suis persuadée que c'est par la pédagogie et par le bon comportement qu'on va faire changer les mentalités.
Ouais. Je voulais revenir sur la transition, du coup. En fait, tu es allé au Prud'homme et en parallèle, en fait, tu as arrêté de travailler pour ta boîte et c'est là que tu as commencé à créer ta nouvelle entreprise.
Alors non, parce qu'en fait, j'ai pu postuler dans une autre entreprise où j'ai été acceptée facilement.
Ah d'accord, ok.
Et en fait, c'est là où ça a fait. J'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que tous les employeurs n'étaient pas les mêmes. Donc, tant mieux. J'avais des gros biais, moi aussi. C'est-à-dire, en tant que candidate, j'avais des biais. Je me suis dit, mais on va tout de suite se concentrer sur moi. Et le destin a fait que je suis tombée sur une manager. Waouh! Mais incroyable! Incroyable! Et d'ailleurs, c'est une manager qui est de confession musulmane. Et en fait, je suis tombée sur une entreprise qui a été tellement bienveillante. Tellement qui s'en foutaient de ce que j'étais et qui m'ont fait confiance parce que ben j'avais quelque chose à donner, j'avais de l'expertise à donner, j'avais un avis tranché, et en fait ça a changé mon regard et je me suis dit que finalement tout le monde ne pense pas pareil, mais ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est rose parce qu'en fait certes, voilà, j'ai travaillé avec mon voile, tout le monde m'appréciait, je m'entendais avec tous les salariés, j'étais dans le département RH, donc voilà, évidemment, tout le monde avait intérêt à s'entendre bien avec moi, mais ça, c'est plutôt, je veux dire, il y a un respect qu'on donne aux équipes, c'est normal, mais je veux dire, je sortais déjeuner avec des collègues, j'allais au séminaire avec eux, enfin voilà, ça se passait super bien. Mais à un moment donné, quand je te disais tout à l'heure que quand on est une personne racisée dans le monde de l'entreprise, malheureusement, il y a des gros biais qui persistent, c'est-à-dire que j'ai dû partir parce que j'avais demandé à être augmentée et passer un poste au-dessus pour pouvoir ouvrir un pôle, en fait, à moi. J'ai été tristement surprise que la personne qui soit recrutée soit une personne qui a moins d'expérience que moi, plus jeune que moi, et donc qui n'est pas racisée. Et donc, il voulait que je sois sous sa responsabilité. Pour moi, c'était impensable. C'était vraiment pas une question d'ego, parce qu'en fait, si la personne avait une expertise à m'apporter, j'aurais évidemment accepté. C'est-à-dire que si la personne avait un background de malade qui allait en tout cas me faire monter en compétence, j'aurais accepté.
Oui.
Et donc, cette incompréhension-là, je me suis dit, OK, très bien, on ne voit pas ma valeur tout de suite, eh ben, je vais aller la saisir, ma valeur. Et donc, à partir de là, je me suis lancée à mon compte.
Ok. Une bonne expérience mitigée à la fin par
Oui,
une mauvaise fin.
pour moi, elle reste quand même très bonne. Elle reste très bonne tout simplement parce que j'ai énormément appris, j'ai été entourée de personnes très bienveillantes et ça m'a appris aussi ce comportement, c'est-à-dire ça m'a appris aussi à me dire que rien n'est acquis, que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout n'est pas vert, tout n'est pas rouge en fait. Et donc en fait, je me suis dit, voilà, maintenant moi je connais ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire, est-ce que je m'apitoie sur mon sort en me disant, ah non, non, on n'a pas reconnu ma valeur et je reste comme ça et je suis déprimée? Ou est-ce que, OK, très bien, je sais ce qui fonctionne pour moi, je sais ce qui ne fonctionne pas. On se quitte en très bons termes parce que ben, on est resté en contact et ça se passe super bien. D'ailleurs, ils ont fait appel à moi. Ils ont fait appel à moi il n'y a pas très longtemps pour mes services. Donc voilà. Et en fait, je me suis dit, non, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, le meilleur, et je pars pour faire encore mieux, tout simplement.
Et pourquoi ne pas avoir rejoint une autre entreprise?
Une question de liberté, clairement. Parce que c'est pas là, c'est plus une question de conviction religieuse, c'est plus une question de voile ou pas voile. Là, c'est une question de liberté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, je veux dire, le salariat, c'est super, c'est protecteur. D'ailleurs, récemment, je suis tombée malade et je me suis rendu compte à quel point le salariat, c'était super. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est pas pour moi, peut-être que j'y retournerai plus tard, mais pour l'instant, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de mettre en œuvre ma créativité. Et je n'ai pas besoin d'être dans un cadre. Je ne voulais pas être dans un cadre. Alors que l'entreprise où j'étais avant, j'avais du travail flexible, c'est-à-dire je faisais du télétravail quand je voulais, je partais à l'étranger faire du télétravail. C'était vraiment super, hein. Le CEO était très très ouvert au télétravail, très ouvert en tout cas à toute proposition. Non, non, c'était super, mais voilà, c'est une question de liberté aussi, une question de aujourd'hui, moi, voici ce que j'aurais voulu avoir. Si on me le donne pas dans une entreprise, eh bien, je vais aller le créer chez moi. Donc, c'est
Qu'est-ce qui
pour
te
ça
manquait du coup?
qu'il manquait la liberté. La liberté, une latitude. Une latitude dans la prise de décision. Je donnais mon avis, c'était super, on me demandait mon avis, donc on ne le remettait pas du tout en question, mais mon avis n'était pas toujours suivi. Et ce qui est normal, hein, parce que quand moi je suis chef d'entreprise aujourd'hui, enfin, je veux dire, mes salariés, ils vont me donner un avis, par exemple, si je recrute demain, ils vont me donner un avis, la décision finale, elle me reviendra. Mais c'est quelque chose qui est normal, c'est un schéma normal. Maintenant, aujourd'hui, je me suis dit non, j'avais besoin de latitude dans la prise de décision et une prise de décision éthique, c'est-à-dire que, comme je te disais au départ, aujourd'hui, je choisis avec qui je travaille, je ne travaille pas par défaut, je n'ai pas de tâche par défaut. Aujourd'hui, je peux très bien travailler le matin et l'après-midi, ne rien faire, et je peux très bien charbonner toute la semaine, mais j'ai une éthique derrière. Par exemple, si quelqu'un me contacte, bon, récemment j'ai une entreprise qui m'a contactée qui voulait mettre en place une stratégie de rétention de ses talents, c'est-à-dire pour fidéliser au maximum ses salariés. Et donc en creusant, bah, je me rends compte que bah, ils ont discriminé des gens en raison de leur orientation sexuelle. Et en fait, je veux dire, même si je ne suis pas concernée par la problématique, je ne veux léser personne en fait. Je ne veux léser personne. Et ça, je veux dire, c'est ça la liberté, c'est que elle est amère parce que ben évidemment les revenus ne sont pas toujours là, le chiffre d'affaires n'est pas au top, etc. C'est normal. Mais je veux dire, je ne veux pas participer à léser qui que ce soit, quand bien même je ne suis pas concernée par la cause ou autre. C'est-à-dire que je veux dire, quand on a moi je garde toujours en tête l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que je me dis, en fait, si le prophète il aurait fait quoi? Mais le prophète, il n'aurait pas lésé à ce moment-là. Et donc, du coup, en fait, dans ma tête, c'est ça. Je me dis, OK, là, j'ai une capacité à dire oui ou non. Ben, si je dis non, je veux dormir, mais vraiment la conscience tranquille. Je ne veux participer à rien qui soit injuste pour qui que ce soit.
On va revenir un peu plus tard sur les services que tu proposes plus en détail, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Quand tu as fait ta transition, est-ce que tu étais soutenu par ton entourage ou pas trop? Parce que tu es parti d'un
Alors,
poste en CDI à l'entrepreneuriat, on va
ouais.
dire. C'est toujours
C'est vrai.
un peu compliqué.
Oui.
Comment ça s'est passé?
Très, très, alors, très, très compliqué. Alors, moi, j'ai une vie de famille, je suis mariée, j'ai un enfant. Et donc, en fait, bon, mon conjoint s'en foutait. C'est-à-dire, lui, il était, tu fais ce qui te plaît, en fait. Voilà. Lui, il est dans, c'est moi qui assume, donc tu fais ce que tu veux. Voilà. Mon conjoint, il a été plutôt dans cette optique-là. Maintenant, c'est vrai que mes parents ont été inquiets. Mes parents ont été inquiets parce qu'ils m'ont toujours connue battante, ils m'ont toujours connue la fille indépendante, la fille qui gère tout toute seule, qui travaille, voilà. Et en fait, le fait de ne plus avoir de revenus stables, ça les a beaucoup inquiétés parce qu'ils se disaient que j'allais peut-être me sentir mal, j'allais perdre cet engouement pour le travail, etc. Au départ, ils étaient très inquiets. Il faut savoir aussi que la génération d'avant, en tout cas celle de nos parents, n'est pas du tout la même que la nôtre. Ils étaient dans une optique du travail qui est d'avoir de l'argent stable, quand bien même, voilà, l'environnement ne soit pas optimal. Et moi, je suis issue d'une famille de martyrs algériens qui ont survécu à la colonisation, à la guerre. Voilà. Et donc, en fait, on a tout ça dans l'histoire de famille qui fait que il faut se battre pour tout. Il faut se battre pour tout et ne jamais abandonner. Et je sais que ça a été peut-être vu au départ comme un abandon. Ça a été vu comme un abandon de voilà, mais bats-toi. On disait bats-toi, continue. Il y a des bonnes entreprises et je n'en doute pas. Il y a des très bonnes entreprises, je n'en doute pas. Mais je veux dire, ça a été difficile de leur faire accepter que ma liberté aujourd'hui, c'est de ne plus avoir de chef. D'être à mon propre compte, de gérer comme je veux. Et pour eux, à la limite, arrêter de travailler complètement, ils auraient plus accepté que me
Ah
mettre
bon?
à mon compte. Ouais, parce qu'en fait, pour eux, arrêter de travailler complètement, c'était une pause et que j'avais besoin d'une pause après toutes ces années et que j'avais besoin de me reposer. Ils le voyaient comme ça et que je reprendrais le salariat une fois que j'aurais plus de ressources et que je serais plus en forme. Et l'entrepreneuriat, pour faire accepter l'entrepreneuriat dans une famille traditionnelle qui a toujours travaillé, mon père a été dans l'éducation nationale, donc pour lui, le devoir, le savoir, c'est important. Enfin, voilà, c'est très difficile à faire accepter. Et ça a été compliqué au départ. Et puis bon, après, quand ils ont vu que j'étais plus épanouie, que j'étais moins stressée, que je voyageais, que j'allais où je voulais, et que les gens, en fait, me faisait confiance. C'est-à-dire que, par exemple, hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour sponsoriser ma newsletter. Et ça, pour eux, c'était quelque chose d'impensable. Pour eux, c'est tu portes le voile, ma fille, c'est difficile d'avoir un travail en France, tu dois accepter l'offre qu'on te propose. En gros, pour eux, c'est ça. Et quand ils ont vu que je me débrouillais plutôt pas mal, et pour être tout à fait honnête, je ne prospecte pas parce que je suis en début de grossesse et que j'ai pas du tout envie de prospecter aujourd'hui. Et en fait, les clients viennent à moi, je croule pas hein, sous les demandes, hein, c'est-à-dire je travaille à mon rythme, mais ils voient que je ne fais pas beaucoup d'efforts. Comme eux, ils le voyaient en fait. Ils pensaient que je devais travailler du matin au soir, que je ne voyais plus mon enfant. Et en fait, non. Ils ont vu, voilà, et ils ont changé d'avis sur l'entrepreneuriat finalement. Pour eux, c'était, ouais, mais tu dois avoir beaucoup d'argent, tu dois avoir une grosse épargne. Et moi, j'ai commencé avec 0 euro. 0 euro. Tout ce que je gagne, je l'investis dans la pub, dans mon matériel, dans mes déplacements. Donc voilà. Et commence à accepter un peu plus. Mais c'est vrai que le soutien, en tout cas pour tous ceux qui veulent se lancer ou avoir une transition aussi radicale, il faut être bien entouré. Il faut. Alors par contre, ce qui est important, c'est que j'ai dû malheureusement me séparer de certaines personnes de mon entourage parce qu'elles étaient plutôt des voix saboteuses autour de moi. Je me suis rendu compte que quand on se lance à son compte, on perd beaucoup d'amis. On perd beaucoup de. Même dans la famille, on perd beaucoup. Et en fait, on se rend compte que ce sont leurs propres peurs qui nous transmettent. Et quand j'avais parlé au départ en disant oui, je vais me mettre à mon compte, ben, en fait, j'ai eu des gros no-go de certaines personnes en me disant oui, mais il faut que tu crées d'abord quelque chose d'innovant. Oui, mais il faut avoir de l'argent, il faut être entouré, il faut avoir une équipe. J'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. Je me suis lancée seule. La seule chose que j'ai achetée, c'est que j'ai dû racheter un PC parce que je travaillais avec celui de mon entreprise avant. Donc, j'ai dû me racheter un PC. Mais je veux dire, juste ça. Et en fait, je me suis séparée, ça m'a fait... C'était douloureux parce que c'était des personnes avec qui j'ai vécu de très bons moments. Et malheureusement, quand on se met à son compte, on perd en amitié, on perd en entourage, mais on gagne en sérénité.
C'est vrai que c'est une période, je pense, qui est assez difficile, hein. Et je sais pas, c'est mon intuition qui me dit que c'est encore plus difficile chez les femmes, souvent.
Oui.
Et les femmes dans ton, comment dire, qui ont exactement le même type de profil, tu vois, qui étaient en CDI, qui pouvaient s'assumer en portant le voile, etc. Parce que les arguments qui reviennent assez souvent, c'est pourquoi tu veux quitter, on t'accepte comme tu es avec ton voile, etc. Ça vient en premier, c'est on t'accepte avec ton voile.
C'est ça.
Donc, il faut que tu restes. Faut que tu te battes. Et
C'est
c'est assez
ça.
injuste par rapport enfin, je trouve, hein, par rapport aux hommes, en fait. C'est comme si on pouvait pas faire ce qu'on
Absolument.
aimait, pas faire ce qui nous épanouissait. Est-ce que t'as, ton côté, tu l'as ressenti de cette façon-là?
Ben, en fait, c'est vrai. Je suis tellement d'accord avec toi parce que moi, ce qui me gênait, c'était cette notion d'acceptation. Quand on me... En fait, ça me hérissait l'épaule. C'est-à-dire, quand on me disait, oui, mais tu es acceptée, en fait, ça me gênait. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être acceptée. Mais en fait, tout le monde vit, tout le monde a la même valeur, tout le monde a le droit de vivre. Pourquoi je dois faire un effort de plus pour que je sois acceptée? Et en fait, ça me gênait profondément parce que je me suis dit, mais est-ce qu'on demanderait ça à un homme? Est-ce qu'on demanderait... J'ai un très bon ami qui travaille dans les fusions-acquisitions et avec qui on a souvent des discussions comme ça. Et lui, donc, il se dirige vers la profession d'avocat. Et en fait, on se rend compte, la différence, c'est que, en fait, je me dis, c'est très... En tout cas, c'est vrai que c'est plus facile quand on est un homme parce qu'il n'y a pas de signe. Alors, je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille parce qu'il y a de la discrimination, voilà. Mais en fait, je veux dire, il y a toujours cette idée que on doit accepter juste ce qu'on a, se contenter de ce qu'on a et se dire que, ouf, là, ça y est, on m'a accepté comme je suis. Alors, il ne faut surtout pas que je bouge parce que je risque de perdre cette acceptation. En fait. Et en fait, si on veut sortir de ce cercle vicieux, il faut arrêter de vouloir être accepté. On ne sera jamais accepté par tout le monde, qu'on porte un signe religieux ou pas. On ne plaira jamais à tout le monde. La seule chose, et là, c'est parce que je sais que c'est un podcast adressé aux musulmans, etc. Quand on a une croyance et quand on a la foi, la seule chose qu'on doit avoir à l'esprit, c'est être accepté par Allah. Tout simplement. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on perd ça dans un monde capitaliste, dans un monde... On le perd parce qu'on se dit, on a beaucoup plus peur de notre employeur que peur de notre créateur, en fait. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas, il faut transgresser les règles. Dans un emploi, il y a des règles, il y a un règlement intérieur, il y a un contrat de travail, des devoirs et des obligations, des deux côtés. Et en fait... Mais avoir ce sentiment de peur qui est beaucoup plus amplifié côté employeur que côté créateur, moi, ça me gêne.
Et je dirais même,
Et...
c'est même pas que côté employeur, parce qu'il y a aussi le côté entourage, qu'on a peur de
Ah oui,
décevoir,
bah,
etc.
évidemment. Côté entourage, côté famille, côté amis, côté... Voilà. Et en fait, c'est moi je l'ai ressenti. Je dis pas que j'ai pas échappé hein, ce sentiment. Je l'ai vu. J'ai déjà eu plus de crainte, en tout cas, de regard des autres. Et voilà. Et je le regrette. Mais on est tous dans un cheminement de perfection aussi. On se perfectionne. Tout est perfectible. On n'est pas parfait. Mais en fait, quand on sort de ça, et c'est là qu'on se dit, waouh, en fait, c'est vrai que j'accorde trop d'importance au regard de l'autre. J'accorde trop d'importance au regard de l'autre. Et moi, ça, je m'en suis rendu compte quand je me suis finalement détachée de tout ça et je me suis dit, allez hop, j'y vais, je participe à cet événement, par exemple, je parle, je m'en fous complètement, on m'accepte, c'est génial, on m'accepte pas, allez, on s'en fout. Et en fait, quand on a ça, on se dit, on a une infime conviction en nous-mêmes en se disant que moi, je veux juste plaire à mon créateur, je ne veux faire de mal à personne, je ne veux être la source d'injustice de personne. Franchement, on a tout gagné. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on devrait travailler. On travaille, quand on est dans un travail et qu'on ne se sent pas bien, il faut toujours revenir à l'essentiel. Il faut toujours revenir à l'essentiel. Est-ce que ce que je fais lèse des personnes? Est-ce que ce que je fais du mal à des personnes? Si la réponse est oui, mais au revoir, il ne faut plus rester. Parce qu'en fait, ça va être de plus en plus difficile. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Parce que quand on est, par exemple, papa solo ou maman solo et que on a des obligations familiales derrière et que, ben, évidemment, on n'a pas le choix, la vie n'est pas toujours toute rose. Donc, on compose avec nos contraintes. Mais je veux dire, tant que dans le travail, on n'est pas source d'injustice, on a tout gagné.
Oui. Bah, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai un regard assez mitigé, tu sais, sur tous ces groupes travail qui acceptent le voile, etc. Mm-hmm. Je trouve ça triste quand même. Je trouve ça vraiment triste de filtrer comme ça et de regarder que... On filtre vraiment ces opportunités professionnelles qu'à travers une liste de personnes qui nous acceptent, qui nous, même pas qui nous acceptent, qui tolèrent, juste qui tolèrent potentiellement.
C'est vrai que rien que le mot tolérer, c'est-à-dire que on va pas accepter totalement, mais je vais donner un exemple très très trash. Hein. Ça n'a rien à voir. La prostitution en France, elle n'est pas légale, elle est tolérée. À partir du moment où on dit qu'on tolère quelque chose, ça veut dire que c'est comme si c'était un mal ou quelque chose de pas très bénéfique, on le sait, mais on va quand même fermer les yeux dessus. En fait, quand on dit que tolérer le voile, moi ça me met dans des états pas possibles. Accepter le voile, ça me met dans des états pas possibles. C'est-à-dire que si les entreprises connaissaient leurs obligations en matière de droit du travail, en matière de laïcité, nous, on ne serait pas là, en fait. Et je passe ma vie sur LinkedIn à commenter. Et franchement, c'est lassant. Je passe ma vie sur LinkedIn à commenter des posts parce que les gens ne comprennent absolument rien à la laïcité. Oui, c'est normal, on est dans un pays, c'est pas cette culture-là, alors il ne faut pas porter le voile. Mais on ne parle pas de culture. Mais c'est, des fois, franchement... C'est très difficile de rester humain face à ces postes parce que on passe sa vie à faire de la pédagogie, on passe sa vie à dire non, la laïcité c'est pas ça, non, le droit du travail ne dit pas ça. Et en fait, c'est pour ça que moi aussi ça me gêne ces groupes qui mentionnent des employeurs qui acceptent le voile. D'un sens c'est bien parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à trouver du travail et qu'elles en ont marre d'être rejetées. J'ai vécu un entretien qui s'est très mal passé et je comprends la détresse de toutes les femmes qui vivent des entretiens de la sorte. Et je me dis, c'est pas possible. Et je comprends ces groupes, mais la solution n'est pas que là. Moi, je pense sincèrement que la solution, c'est de se rendre visible. C'est prendre la parole. Parce qu'en fait, moi, j'en avais assez que les gens prennent la parole à ma place. J'en avais assez qu'on me dise, oui, le voile, c'est ça, le voile. Mais laissez-moi parler, c'est moi qui le porte. C'est moi qui le porte, je vais vous expliquer. Et en fait, si chaque femme, c'est une question de personnalité aussi, quand on est introverti, c'est un peu plus compliqué. Si chaque femme osait prendre la parole, si elle le veut, hein, rien n'est obligatoire. Si elle a envie de prendre sa place, c'est par la prise de parole. Prendre sa place, c'est par la prise de parole. Et ça, j'en suis convaincue aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, j'en suis convaincue. Et dans le monde du travail, c'est comme ça. Tu prends la parole, tu montres ton expertise, tu ne parles pas de ton voile. C'est pour ça que moi, quand j'accompagne certaines femmes qui portent le voile dans un programme qui s'appelle « La prise en main de sa carrière ». Et en fait, on commence toujours une phase par définir sa valeur sur le marché du travail. Et quand je leur demande quels sont les salaires, en tout cas, ou les prétentions salariales que toi, tu veux, elle me donne des salaires tellement bas par rapport à son expertise. Et quand je demande pourquoi, elle me dit « Oui, mais c'est parce que c'est déjà si je suis acceptée avec mon voile. » Stop. On ne parle pas de voile en entretien d'embauche. On y va, on est comme on est. On ne parle pas de voile en entretien d'embauche. Et si on nous pose la question, quel est le rapport avec mes compétences? Quel est le rapport avec le poste? On rappelle le cadre légal de manière diplomate. Et là, le recruteur va se retrouver tout bête parce que, évidemment, ça n'a aucun rapport.
Ouais.
Et ça, c'est important. C'est pour ça que je dis prendre la parole, c'est avoir une connaissance, avoir connaissance de ses droits et savoir qu'on est dans ses droits. Et arrêter d'être dans un statut de vouloir être accepté à tout prix. Non, on ne sera pas accepté, ce n'est pas grave. Mais quand on garde à l'esprit que la subsistance vient d'en haut, pourquoi on se casse la tête? On y va, on fait ce qu'on a à faire. Si ça ne marche pas, eh bien, le destin nous mènera ailleurs, en fait. Mais en tout cas, on aura donné une bonne leçon à cette entreprise.
Très bien. Tu as commencé à évoquer les services que tu proposes. Est-ce que tu peux nous revenir un peu dessus? Tu proposes des services pour les entreprises, pour les particuliers? Est-ce que tu peux résumer un petit peu ce que tu offres?
Alors, je fais beaucoup de sur-mesure. C'est-à-dire que je n'ai pas une offre dédiée, par exemple, pour chaque cas. Je fais du sur-mesure dans le sens où, comme les ressources humaines, c'est vraiment quelque chose d'humain. Et du coup, moi, je me base sur le parcours de la personne. Pour les entreprises, par contre, je vais avoir une offre gestion du personnel. Par exemple, si une entreprise n'a pas encore de département RH ou de juriste dans son entreprise, elle va faire appel à mes services et je vais travailler pour elle 2 jours par semaine, 1 journée par semaine pendant 6 mois, 1 an, un peu moins. Et en fait, c'est pour gérer son personnel, pour mettre en place un département RH ou pour mettre en place une stratégie voilà, de gestion de son personnel. Qui dit gestion du personnel dit contrat de travail, dit tout ce qui est recrutement, fidélisation des talents, mise en place d'accords d'entreprise. Voilà, c'est des choses, vraiment une structuration de l'entreprise. Et ça sert beaucoup aux entrepreneurs qui se lancent et qui ne savent pas par où commencer. Et donc, ils sont accompagnés. Et sinon, il va y avoir des plus grosses entreprises qui vont faire appel à moi parce qu'elles n'ont pas les moyens pour s'offrir un juriste ou parce qu'elles me contactent sur une thématique particulière. Par exemple, justement, tout ce qui est politique, diversité, inclusion en entreprise. Tout ce qui est, j'anime aussi des ateliers en entreprise sur l'aspect légal de la diversité. Sur le recrutement, le cadre légal du recrutement. Voilà. Je peux intervenir de manière ponctuelle, c'est-à-dire pour des ateliers et des formations, ou de manière un peu plus continue quand on a besoin de gérer son personnel. Et pour côté en tout cas salarié, candidat, etc., c'est plus des programmes d'accompagnement, de gestion de sa carrière. On va avoir des séances d'information, c'est-à-dire qu'on va me contacter parce que la personne ne connaît pas ses droits et donc a besoin d'avoir des informations juridiques sur telle ou telle thématique. Elle en ressort avec une stratégie, avec comment connaître ses droits en entreprise. Il va y avoir aussi des séances de négociation. En ce moment, je fais beaucoup ça. Des personnes qui souhaitent partir de leur entreprise, qui ne savent pas négocier. Et en fait, on met en place une stratégie de négociation, des stratégies psychologiques, voilà. Et en fait, c'est un tout. Et le salarié ressort avec des conseils, des astuces pour mieux négocier. Quand je dis négocier, ouais, c'est pas juste négocier un départ, rupture conventionnelle ou autre, c'est vraiment négocier sa valeur. Je veux dire, malheureusement, on est obligé de négocier dans un monde comme le nôtre. Et donc, ils vont avoir une posture, ils vont avoir des conseils, comment je rédige, comment je parle. Et en fait, c'est plus de... C'est vraiment psychologique parce que beaucoup arrivent dépités. Et ouais, en fait, ils ont toutes les clés en main pour négocier. Donc, des négociations de départ qui se font de manière apaisée. Juste un exemple, récemment, j'ai une salariée qui n'en pouvait plus, qui voulait quitter son entreprise et elle ne savait pas comment aborder les sujets. Et en fait, en faisant un accompagnement avec moi, elle a pu partir avec une grosse indemnité parce qu'elle a su employer les bons mots, elle a su avoir une bonne stratégie. Donc, ça me fait une satisfaction personnelle parce que je me dis, j'ai aidé une personne à partir sereinement. Après, par exemple, quand il y a un problème particulier juridique, là, je dirige vers un avocat. Parce que si ça ne va pas, il faut prendre un avocat, tout simplement. Voilà. Ouais. Quand on a besoin de conseils juridiques, on va avoir un avocat. Et il y a un autre type d'accompagnement, c'est ce dont je te parlais juste avant, c'est la prise en main de sa carrière de manière générale, c'est-à-dire définir sa valeur sur le marché du travail, comment je me place, est-ce que ce métier est fait pour moi, comment j'affirme ma valeur au travail, comment je réussis à dire non au travail, comment je mets des limites au travail. Et en fait, c'est des hacks qu'on doit avoir, comment je connais mes droits et devoirs au travail, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui ne connaissaient rien de leurs droits, et donc qui étaient lésés, qui me disent « oui, mais on m'a obligé à signer ça ». Mais on n'oblige personne à signer, les gars. Stop. Si ça ne convient pas, on ne signe pas. Et en fait, c'est des programmes qui sont sur mesure dans le sens où je m'adapte au type de personnalité, je m'adapte à l'objectif. C'est-à-dire, la première question que je pose, c'est « quel est ton objectif ? » Est-ce que ton objectif, c'est de partir de ton entreprise avec une grosse indemnité ? Ou est-ce que ton objectif, c'est d'être sûr de toi, de reconnaître ta valeur, de ne plus avoir peur d'affronter le monde du travail ?
Ok.
Voilà, en tout cas, ça, c'est ce que je propose de manière générale.
C'est génial, c'est très varié. Et du coup, le public cible que tu as, ou des particuliers, ça va plutôt être des femmes, des hommes, plus de femmes que d'hommes ?
En fait, c'est assez partagé. C'est assez partagé. C'est vrai que au départ, je me suis dit, je vais peut-être avoir beaucoup de femmes parce que elles vont s'identifier un peu à mon profil. Et en fait, non, j'ai pas mal d'hommes. J'ai pas mal d'hommes qui malheureusement subissent énormément au travail et qui le fait d'avoir subi cette pression de la société déjà parce qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions se retrouvent dans un cercle qui les fragilise et ils vont avoir du mal à définir leurs valeurs sur le marché du travail. Et
c'est-à-dire qu'ils peuvent pas parler de leurs émotions, etc.
En fait, j'ai déjà eu des hommes qui, par exemple, ils me disent « Ouais, mais si je dis ça à mon employeur, si j'écris à mon employeur que cette situation me rend malade, j'annonce ma faiblesse, en fait. » Et en fait, c'est difficile pour eux parce qu'ils ont grandi dans une société où on les oblige à ne jamais exprimer leurs émotions, que exprimer son émotion, c'est montrer sa faiblesse. Et donc, le jour où ils sont confrontés à un problème au travail, eh ben, il faut qu'ils restent comme des warriors, il faut rester solide, etc. Mais non. Et quand je leur dis, mais si ça ne va pas, on se met en arrêt. On se met en arrêt quand ça ne va pas. Et ils sont là, oui, mais si je me mets en arrêt, je suis faible. Ben non. Et en fait, c'est très difficile pour eux de définir leurs valeurs sur le marché, surtout quand ce sont des hommes qui ont dépassé la cinquantaine, malheureusement, et qui se rapprochent de l'âge de la retraite, qui ont des obligations familiales et qui me disent mais qu'est-ce que je vais faire, moi, de 50 ans jusqu'à 64 ans ? Et c'est très difficile pour eux de redéfinir leurs valeurs sur le marché du travail.
Donc, tu accompagnes aussi ces types de personnes-là ?
Absolument. En fait, vraiment, j'accompagne tout type d'âge, tout type de profil. Il y a des jeunes étudiants qui veulent se lancer, etc., donc que j'accompagne, mais il y a aussi des personnes qui approchent de l'âge de la retraite et qui sont perdues parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique, parce qu'ils ont du mal à connaître quel salaire ils peuvent prétendre aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est très varié, très, très varié.
Oui. Sur le côté des offres que tu proposes aux entreprises, tu parlais de mettre en place des politiques de diversité et inclusion, si j'ai bien compris, par exemple. Par rapport à ta situation de musulmane, la plupart de l'audience est musulmane, est-ce que le fait de promouvoir l'inclusion de tout type de population, ça n'amène pas justement à parfois être dans des situations délicates où on est là à promouvoir peut-être des populations, par exemple, tu disais, avec des orientations sexuelles différentes, ce genre de choses. Est-ce que ça pose problème ?
C'est une très bonne question. Non, ça ne pose pas problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'accompagne dans la diversité-inclusion, moi, c'est des techniques pour ne pas favoriser ou défavoriser en fonction de tel ou tel critère. Je donne un exemple. Par exemple, dans le recrutement. Il y a beaucoup, beaucoup de discrimination dans le recrutement. Donc, en fait, quand j'interviens auprès d'une équipe de recruteurs, on va mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de diversité. Et donc, on va commencer dès la collecte de la candidature. Quand on va collecter une candidature, ce que je leur mets en place, c'est un formulaire. On évacue le CV. On évacue le CV, on ne parle pas de CV. On va mettre en place un formulaire anonyme qui ne mentionne aucunement les informations personnelles. Ni nom, ni prénom, ni photo, ni adresse mail, ni rien du tout. Soit on demande l'adresse mail, une adresse mail, une adresse mail sans le nom, prénom. Donc là, la personne va devoir donner, par exemple, son téléphone. Ou soit la personne, elle est OK pour mettre son adresse mail. Mais en général, l'adresse mail, elle donne aussi une information sur le nom et prénom. Donc en fait, le numéro de téléphone est important parce que si la personne, elle a postulé et qu'on ne veut pas du tout avoir de critères déjà pour les biais cognitifs dans la tête, on va la contacter par téléphone. On ne saura pas qui c'est, mais on va juste « Oui, bonjour, vous avez postulé à tel poste. » Et en fait, quand on commence par évacuer tout ce qui est info personnelle, tout ce qui est critères qui vont identifier une personne, on va déjà s'éloigner de ces biais. Donc, on n'est même pas dans une stratégie de « Oui, moi, je vais favoriser des personnes en situation de handicap, je vais favoriser des personnes d'une certaine orientation sexuelle, etc. » Non, on est vraiment dans une stratégie de diversité autour de tout le monde. Mmh. Et effectivement, c'est une bonne question, comme je te disais, parce que promouvoir la diversité et l'inclusion ne signifie pas promouvoir les causes ou certaines causes, etc. Moi, quand j'interviens, je n'interviens pas pour promouvoir, par exemple, le voile en entreprise, quand bien même je le porte. J'interviens pour mettre en place un cadre légal. Le cadre légal, c'est quoi ? C'est que vous ne devez pas discriminer telle ou telle personne en raison de tel ou tel critère. Ouais. Et comment on fait pour ne pas discriminer en raison de tel ou tel critère ? On va mettre en place une stratégie anonyme de recrutement. On recrute de cette manière. Et en fait, Ça évacue toute ambiguïté. Moi, quand j'arrive en atelier, je leur dis tout de suite, aujourd'hui, le but n'est pas de vous faire adhérer à telle ou telle cause. Ce n'est pas le but, en fait. Aujourd'hui, le but, c'est que vous êtes confrontés à une population de candidats. Votre but est de ne pas léser ou favoriser, défavoriser telle ou telle personne.
Oui.
Et ça arrive même à moi quand je recrutais, que je voyais une personne avec sa photo qui avait un voile, j'avais de la compassion envers elle. C'est un biais cognitif.
Oui.
Simplement. Et en fait, c'est comme ça que j'évacue toutes ces questions de cause, etc. Je leur dis qu'on a tous des convictions, on a tous des idées, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est vraiment, on n'est pas là pour changer, on n'est pas là pour vous faire adhérer à une cause. Je suis là pour qu'on mette en place une stratégie pour éviter de défavoriser certaines personnes, tout simplement. Parce que c'est quoi le but? C'est de travailler. Le but, c'est d'avoir une main-d'œuvre dans l'entreprise qui travaille et on veille à son bien-être.
Oui.
Tout simplement. J'ai déjà été confrontée à des questions de changement de sexe, par exemple. Mais mon but, c'était quoi? Mon but, c'était pas d'adhérer ou pas à la cause. En fait, il faut avoir la tête sur les épaules. Mon but, c'était pas de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. On s'en fout. Ce que je pensais en moi. Là, mon but, c'était de préserver la santé de la personne. Donc, on met en place tout ce qui est médecine du travail, on met en place un suivi psychologique, etc. etc. Je veux dire, il faut encore garder à l'esprit ce que je disais au tout début, c'est que le prophète, comment aurait-il agi à ce moment-là? Est-ce qu'il aurait défavorisé une personne? Et en fait, non. Et quand on a ça dans la tête, c'est qu'on ne vient pas pour une cause. Moi, aujourd'hui, dans mon travail, je ne défends pas de cause. Je ne défends pas de cause.
Oui.
Moi, je suis là pour mettre en place des stratégies, pour mettre en place des plans, des actions pour éviter de discriminer les gens, pour éviter de défavoriser certaines personnes. Alors évidemment, si c'est des personnes qui sont musulmanes, etc., oui, ça va me toucher au fond de moi, mais je ne vais pas être là à défendre telle ou telle cause. Je défends toutes les causes, en fait, c'est-à-dire que je suis là, je défends le cadre légal. Et qui dit défendre le cadre légal ne dit pas adhérer ou pas à certaines causes.
Très bien. Mais écoute, je pense que c'est des beaux mots de la fin. avant qu'on arrive sur la question de la fin, puisqu'on est bientôt vers la fin, est-ce que tu as un sujet ou quelque chose sur lequel on n'a pas discuté que tu voudrais mentionner?
Pas vraiment comme ça, non. Après, il y a tellement de choses à dire, mais j'espère que juste que ce que j'ai dit sera compris par les gens et qu'ils sauront en tout cas leur valeur sur le marché du travail et qu'ils ne vont jamais se dévaloriser en raison de ce qu'ils portent ou ce qu'ils ont en eux, en tout cas.
Inch'Allah. En tout cas, je pense que c'était très clair. Quelles sont les compétences qui, toi, personnellement, te sont les plus utiles au travail et dans la vie de tous les jours?
La communication. La communication, c'est très important parce que, comme je te disais, prendre sa place, c'est à travers la parole. Et quand on sait communiquer, quand on est un bon communicant, quand on utilise les bons mots, on est compris. On n'est pas toujours compris par les bonnes personnes, mais on est compris et on a un message clair qui ne laisse pas place à l'ambiguïté. Et je trouve que ça, c'est important aujourd'hui quand on est musulman. Il faut savoir s'exprimer.
Comment tu apprends à t'exprimer?
Alors moi j'ai comme je te disais, moi je voulais être avocate, donc je faisais tous les concours de plaidoirie, j'écoutais des plaidoiries de grands avocats américains, je lisais beaucoup, mais je fais beaucoup d'invocations aussi. Je fais beaucoup d'invocations avant de m'exprimer. J'ai aussi mes propres peurs et tout simplement je me répète dans ma tête des invocations que j'ai depuis petite, tout simplement. Et en fait je crois que c'est ça la force, c'est que on demande de l'aide à son créateur et c'est lui qui fait tout le reste.
Très bien. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail?
Trouver des solutions.
Trouver des solutions pour les gens.
Ouais. Ah oui, trouver des solutions. Quand une personne arrive stressée et qu'elle sort apaisée du rendez-vous avec moi, c'est une satisfaction énorme.
Très bien. Quelles sont tes routines préférées, les routines qui t'aident à progresser ou qui t'aident à garder la pêche?
Me retirer. En fait, on est très vite pris dans le moule, on est très vite la tête dans le guidon quand on travaille, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Et en fait, j'ai appris à lâcher prise. Et par exemple, ça m'est arrivé de faire un rendez-vous et puis après arrêter de travailler pendant 3-4 jours, tout simplement, parce que j'avais besoin. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on est obligé d'être présent sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose qui me dérange d'être tout le temps présente sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de charge mentale, je suis fatiguée parfois et il n'y a rien de honteux à le dire. La vraie vie, c'est ça, c'est quand on est fatigué, quand on est à bout parfois. Et donc, en fait, il faut savoir se retirer, s'extraire de cet environnement, tout simplement.
Génial. Et tu fais quoi pendant quand tu te retires?
Je fais beaucoup de choses, mais je n'ouvre pas mon PC. Je n'ouvre pas mon PC et je ne vais pas sur mes comptes pro. Je ne vais pas sur LinkedIn, je ne vais pas sur mon Insta pro, je ne regarde pas mes mails. Voilà. Je réponds aux appels uniquement personnels et je me retire au point où j'oublie en fait que j'ai une boîte derrière. C'est un peu problématique parfois parce que je me dis « Ah purée, c'est vrai, j'avais ça à faire. » Mais en fait, il faut savoir se retirer parce que y a des épreuves dans la vie, la maladie, les décès, etc., qui nous rappellent que ben, tout est éphémère et que pourquoi je fais ça. Et donc, le fait de me retirer, je me re-questionne et je me remets en question. Je remets en question mon intention. Pourquoi je le fais? Et ça, questionner son intention, c'est très important.
Très belle routine. Est-ce que tu as une recommandation ou plusieurs recommandations peut-être de livres, documentaires ou de références qui t'ont marqué?
Alors oui, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, mais je peux pas dire marqué. Je lis. Je suis pas une très bonne lectrice. Je lis pour un but. Récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Parce que suite à une déception, comme je te disais tout à l'heure, suite à une déception quand je me suis lancée à mon compte de mon entourage, des amis qui m'ont lâchée en cours de route parce que je me suis lancée à mon compte, je l'ai vécu vraiment très très difficilement. J'ai été triste qu'on me lâche alors que j'étais là pour eux. Et en fait, j'ai eu besoin de lire ce livre parce que je voulais arrêter d'être gentille pour être gentille. Je voulais être vraie. Et en fait, j'ai lu, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Je n'étais pas d'accord avec tout, mais j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Ça m'a aidé, des petites routines dans la vie de tous les jours comme ça, à savoir reformuler les choses. C'est de la communication non violente, en fait. C'est-à-dire que on a des conflits dans la vie de tous les jours, mais comment on communique de manière non violente, c'est très important. Je reviens aussi, comme tu me disais, c'était quoi la compétence la plus utile? Pour moi, c'est la communication. Et je ne dirais pas que ça m'a marqué. Moi, le seul livre qui me marque, c'est le Coran. Clairement, parce qu'en fait, quand je reviens, des fois je suis triste, on est tous tristes, hein, la vie d'entrepreneur, c'est pas la joie hein, tout le temps. Hein. Des fois je pleure, des fois je pète un câble, des fois voilà. Et en fait, il suffit de lire quelques versets et tout va bien.
Tu as une traduction préférée ou tu es arabophone?
Oui, je suis arabophone, donc ça c'est l'avantage, c'est que je lis le Coran qu'en arabe. Qu'en arabe, et ça c'est vraiment un avantage. Alhamdoulilah que je puisse pouvoir le lire en arabe. Maintenant, les traductions aussi sont très bien. Il faut juste méditer, en fait. Il y a quelque chose, il y a un verset que je me répète tout le temps, c'est « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha », c'est que Allah ne fait subir aucune charge supérieure à notre capacité. Et en fait, même quand on le traduit, la signification est là, c'est énorme. Donc, juste se rappeler que tout ce qui arrive, on a la capacité de le surmonter. Et grâce à Allah, on y arrive, tout simplement.
Très belle parole. Et enfin, dernière question, Loubna. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te contacter ou te suivre, est-ce que c'est possible de te contacter, de te suivre sur LinkedIn? Tu l'as évoqué, mais peut-être que voilà, tu peux décrire.
Bien sûr, bien sûr. Alors, sur LinkedIn, je suis présente. Donc, mon nom, c'est Tigroussine Loubna. Donc, ça se trouve facilement parce qu'il n'y en a pas d'autres.
Je mettrai dans les liens de toute façon.
Voilà, très bien. Je te laisse le soin de mettre dans le lien. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et me contacter soit via Instagram. Je laisserai mon email professionnel aussi. Mais voilà, je suis très réactive. Je réponds, mais par contre, il faut avoir à l'idée que je ne réponds pas de manière détaillée par message. En général, ça fait l'objet d'une séance avec moi pour donner le meilleur des conseils.
Super. Bah, écoute, Loubna, on arrive à la fin. C'était une discussion super intéressante. Je suis sûr que ça va en aider plus d'un. C'est un sujet, enfin, on n'a eu que plusieurs sujets d'ailleurs. la reconversion, le sujet du droit du travail, qui, j'en suis sûr, vont l'intéresser plus d'un. Et voilà, je voulais te dire que je te remercie pour ta présence et pour ton partage d'expérience. Tu en es rentré dans ton intimité un petit peu et c'est pas facile, je sais.
Merci beaucoup à toi. J'ai été ravie en tout cas d'être invitée à ce podcast et j'espère que je voudrais juste dire que mes paroles, elles sont valables pour moi et il faut juste que les auditeurs et les auditrices prennent ce qui leur convient. On prend ce qu'il y a à prendre et on laisse ce qu'il y a à laisser. On peut parfois ne pas être d'accord et en fait, la richesse, elle est là. Mais tant que vous avez en vous une intention qui est bonne et pure, franchement, personne ne peut arrêter, en tout cas, une machine qui a déjà commencé à travailler. Donc voilà, je sais que c'est difficile, mais tout le monde est capable d'y arriver, que tout n'est pas tout beau, tout rose, mais tout le monde peut le faire. Et puis, il faut se rappeler qu'on a toujours la capacité de faire.
Merci, Lubna. Je te souhaite une très belle journée. Et je te dis
Merci
à très
beaucoup.
Vite, Inch'Allah. Salam alaikum.
Merci beaucoup. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.